Aujourd'hui, le quatrième mur se met à table. La table de montage, plus précisément, car mon invité du jour est monteur pour des films de fiction et documentaires. Il nous parlera de cet exercice délicat où il s'agit bien souvent de rendre toute leur vivacité et leur énergie à des images couchées sur pellicule bien avant. Aurélien Magna, bonsoir.
Bonsoir Robin.
Comme je disais, donc tu es monteur, on va parler de beaucoup de choses puisque tu es également auteur, romancier, donc on va prendre les choses petit à petit, une par une. Alors d'abord une question, ce que j'aime bien appeler la question l'œuf ou la poule, une question toute bête qui peut paraître facile. Comment est-ce qu'on devient monteur? C'est-à-dire que au-delà de la formation, est-ce qu'au départ il faut aimer jouer avec les images, avec le son, aimer triturer tout ça au départ?
En fait, j'aime bien dire que le montage, c'est le métier le plus proche de la cinéphilie. C'est-à-dire que moi, j'étais fou de cinéma. Je suis fou de cinéma depuis que je suis tout petit. Et bon, comme beaucoup, je voulais devenir réalisateur. Et puis, j'ai découvert à l'adolescence qu'en fait, il y avait une place dans la fabrication d'un film qui me correspondait beaucoup plus, qui était le montage, en fait. Parce que moi, j'adorais regarder des films, les revoir aussi et déceler des choses, comprendre les acteurs, voilà. Et j'ai découvert que le montage, c'était la place idéale pour ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est la place du cinéphile parce qu'on passe notre temps à regarder les images. Et ce que j'ai aimé dans le montage aussi, c'est vraiment le côté, voilà, écrire avec des images. Voilà, c'est vraiment écrire avec des images et puis vraiment de construire un récit, en fait, parce que bien sûr, le récit se construit une première fois au scénario, une deuxième fois au tournage et puis une dernière fois au montage. Donc, c'est vraiment au montage que se décide vraiment le récit. Donc, c'est ça aussi qui m'a convaincu pour devenir monteur.
Et c'est vrai que tu parlais du rôle du monteur dans le cinéma, dans le cinéma et dans chaque film. C'est vrai que y a des noms, même si c'est des métiers de l'ombre, il y a des noms de monteurs et de monteuses qui sont très connus, notamment y compris pour des cinéastes dont on considère qu'ils ont fait beaucoup pour le ciné. Je pense qu'il y a deux exemples qui me viennent en tête, c'est Martin Scorsese et Tarantino, et c'est vrai qu'eux-mêmes sont les premiers à reconnaître l'influence et l'apport qu'a eu leur monteuse respective, puisque c'est des femmes en l'occurrence. Thelma Schoonmaker pour Scorsese, qui était d'ailleurs, il me semble, la dernière épouse de Michael Powell, qui était une des idoles cinématographiques de Scorsese, donc le monde est tout petit. Et c'est vrai qu'on pense au montage qui était hyper novateur pour l'époque, que ce soit Raging Bull ou Les Affranchis ou plus tard le Loup de Wall Street. C'est vrai que si tu enlèves tout le montage survitaminé qui est propre à Scorsese, c'est très différent. Et pareil, alors elle est décédée aujourd'hui, mais Tarantino qui a beaucoup bossé avec Sally Menke. Et c'est vrai que quand on pense au montage des films de Tarantino, c'est très particulier. Et d'ailleurs, est-ce que toi, puisque tu as travaillé avec des cinéastes et avec des réalisateurs différents, est-ce que chaque projet est radicalement différent? Je pense notamment le projet sur lequel tu travailles actuellement ou que tu viens de terminer, tu me diras, mais c'est avec c'est un projet qui s'appelle L'Escendant, c'est avec Pascal Rabaté, qui est lui dessinateur de BD de formation. Est-ce que c'est différent? Est-ce que lui il voit, est-ce qu'il envisage les choses différemment?
En fait, chaque montage de film est différent, chaque travail avec un réalisateur implique une façon de monter différente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant que monteur, j'ai pas de style. Un monteur, ça n'a pas de style. Un monteur, il va adopter le style de mise en scène du réalisateur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le montage, c'est vraiment l'aboutissement de la mise en scène. Un montage, il est signé par deux personnes, par le réalisateur et le monteur. Mmh. Et on parlait tu parlais de Scorsese, Tarantino. Finalement, le montage de leur film, c'est l'aboutissement de leur mise en scène. Enfin, c'est-à-dire que la façon dont ils tournent
et leur vision
implique la façon dont c'est monté. Quoi. C'est-à-dire que quand on va monter un film, on va pas aller contre ce qui a été tourné, en fait. On va vraiment accompagner les rushs pour les magnifier, en fait. Voilà. Mm-hmm. Et pour ce qui est du travail avec Pascal Rabaté, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est son quatrième long métrage, mais c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et en fait, c'était encore une nouvelle façon de travailler, quoi, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans dans l'image, dans la composition de l'image, dans le son aussi. C'est vraiment, j'ai rarement travaillé avec un cinéaste qui aimait autant le son, en fait. Ce qui peut paraître assez contradictoire avec le fait qu'il dessine de la bande dessinée quand en bande dessinée, a priori, il n'y a pas de son. Mais,
il était en manque.
En tout cas, voilà, ça fait partie des choses qui l'intéressent. C'est assez vivifiant en tant que monteur d'avoir un cinéaste qui s'intéresse autant au son. Voilà, parce que c'est un film où le son est extrêmement important parce qu'en fait, c'est un film sans parole. C'est un film sans parole. C'est-à-dire qu'on a plein de personnages qui s'expriment, qui communiquent, mais en fait, ils ont chacun leur propre langage, une espèce de tour de Babel comme ça, où chacun s'exprime comme il peut, mais sans langue précise, quoi. Voilà, donc c'était...
Et là, du coup, c'est un projet où le visuel et le montage et les images prennent une place d'autant plus importante.
Tout à fait. Ouais, tout à fait, parce que du coup, quand dans la communication entre ces personnages, il fallait, il y avait des choses qui avaient été construites au tournage, mais au montage, il fallait continuer cette invention perpétuelle de façon de communiquer entre les personnages et trouver aussi un côté burlesque à tout ça, quoi.
Et alors tu disais avant le montage il se fait à deux, c'est un travail à deux, mais justement comment dire, le réalisateur, chaque réalisateur a sa vision, et parfois elle est on parlait de cinéastes comme Scorsese ou Tarantino avant, et je pense qu'évidemment c'est le cas, ils ont leur vision qui est très claire, qui est unique, qui est inimitable, mais qui peut être aussi, je dirais pas hermétique, mais qui peut être difficile à retranscrire, et c'est difficile d'en parler et de mettre des mots dessus et de le transmettre avec le monteur. Ça, c'est un challenge supplémentaire quand on travaille avec un cinéaste.
Bah, disons que c'est une des raisons pour lesquelles, dans l'histoire du cinéma, les couples les plus solides, c'est les couples réalisateurs-monteurs. Pour reparler de Scorsese, si on regarde ses génériques depuis le début de sa carrière, il a changé de scénariste, il a changé de chef-op, il a changé de producteur, mais il n'a jamais changé de monteuse. Enfin, ce n'est pas elle qui a monté ses tout premiers films, mais en tout cas, une fois qu'il a trouvé la bonne personne...
Il l'a gardé.
Voilà. Parce que voilà, c'est une relation déjà très très intime. On passe plusieurs mois dans une... On passe quand même plusieurs mois enfermés 10 heures par jour dans une salle de 10 mètres carrés. Donc il faut quand même bien s'entendre et surtout bien se comprendre, en fait. Parce que vraiment, le montage, c'est un langage très très subtil, en fait. Et en plus de ça, il faut que le réalisateur il ait une confiance énorme dans son monteur, parce qu'il lui confie quand même l'écriture finale, la co-écriture finale de son film. Donc voilà, il y a des cinéastes comme Scorsese, Jacques Audiard, qui ont pu changer de chef de poste, mais ils ont toujours gardé les mêmes monteurs et monteuses, quoi. C'est parce que voilà, il y a une relation qui est extrêmement importante et tellement complexe à mettre en place qu'une fois qu'elle est trouvée, généralement
on la garde et
voilà, exactement.
D'ailleurs, on prend des exemples qui sont assez célèbres, mais à terme, peut-être que le monteur ou la monteuse finit par devenir important et peut-être même influent sur le style du cinéaste lui-même, finalement sur le long terme.
Oui, parce qu'en fait, de film en film, on discute, et c'est vrai que moi, les cinéastes avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, c'est vrai que je pense qu'au montage, en discutant, il y a des idées qui leur sont venues pour la fois d'après, quoi. C'est-à-dire, telle façon de tourner un dialogue, de diriger un acteur, parce qu'on pourrait en parler peut-être, mais au montage, on travaille énormément sur le jeu des acteurs.
Bien sûr.
Et donc voilà, effectivement, c'est une relation qui fait que voilà, on nourrit des choses pour les projets suivants. Ouais.
Et quand tu parles du jeu d'acteur, la vision, l'aspect qu'on a du jeu d'acteur, c'est quelque chose de peut-être finalement assez théâtral, où tout se joue sur le plateau, sur la direction d'acteur. Et toi, tu dis, ça prend une dimension supplémentaire au montage.
Carrément, ouais. Évidemment, il y a une grande partie qui se joue au tournage. Mais au tournage, on essaie plusieurs choses avec un comédien. On va essayer de gérer l'intensité, de lui faire jouer des choses un peu plus tristes, un peu plus marrantes, tout ça. Et après, au montage, il faut donner une cohérence à tout ça. Il va falloir rapprocher l'acteur du personnage le plus possible. Parce que souvent, on va avoir ce qu'on appelle des prises cerclées, c'est-à-dire des prises qui ont été décidées comme les meilleures sur le tournage, qu'on va monter dans un premier temps. Après, on va s'apercevoir que tiens, là sur cette prise, on voit trop l'acteur jouer et pas assez le personnage. Et du coup, nous, on va ramener l'acteur vers le personnage. Voilà.
Donc c'est là que tout se joue finalement, où notamment sur certains films, tu peux te retrouver avec des heures et des heures de rush, et c'est de là que tu vas extraire, trier le bon grain de livret finalement.
Exactement, ouais, ouais, ouais.
Et alors toi, tu as également réalisé un film de fin d'études qui s'appelle La route de Camilo. C'est un documentaire consacré à la vie de Camilo Cienfuegos, désolé pour l'accent, qui a été avec Fidel Castro et Che Guevara, un des artisans de la révolution cubaine. C'est très intéressant parce que moi, honnêtement, je m'étais intéressé de façon, je dirais, assez superficielle à ce sujet-là. Et c'était un nom qui m'était totalement inconnu, puisqu'au fait, au-delà des frères Castro et du Che, évidemment, on ne connaît pas forcément. C'est une histoire qui, selon toi, n'avait pas été racontée, qui avait besoin de l'être ?
En fait, c'est une histoire qui est très, très célèbre à Cuba. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé à Cuba, c'est de découvrir à quel point Camilo était une idole. Alors que je n'avais jamais entendu parler avant de débarquer à Cuba, quoi. Alors c'est vrai que les frères Castro et le Che sont les figures emblématiques, mais vraiment Camilo, au même titre que le Che ou Fidel, c'est une véritable icône nationale, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était des héros de la Révolution, c'est le héros le plus proche du peuple, en fait. Mm-hmm. Parce que finalement, le Che, il est argentin. Fidel Castro, les frères Castro sont issus d'un milieu plutôt bourgeois. Mm-hmm. Et Camilo, il était cubain et il venait vraiment d'une famille populaire, quoi. Voilà, donc c'était pour ça qu'il était extrêmement populaire et c'est probablement pour ça que Castro a fini par l'écarter du pouvoir en le faisant disparaître. Voilà, enfin, on ne saura jamais, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est une figure assez iconique et et c'est vrai que le fait qu'il soit très peu connu en dehors des frontières m'offrait une espèce de... C'était comme un cadeau, en fait. Je veux dire, tiens, comme ça, je vais pouvoir réaliser le premier film français sur Camilo. Ouais. Et du coup, les gens, d'ailleurs, aux archives cubaines, parce que c'est un film composé uniquement d'archives, étaient assez surpris qu'on s'intéresse autant à Camilo. Mm-hmm. Voilà, donc c'était une expérience assez... assez extraordinaire, quoi, d'être là-bas, de chercher des traces de Camilo.
C'est un personnage dont tu avais entendu parler avant, ou c'est en réalisant des voyages à Cuba que tu en as entendu parler ?
J'en ai entendu parler la première fois que je suis allé à Cuba.
D'accord.
Ouais.
Et donc là, oui, tu t'es dit, c'est vrai que, j'imagine, c'est comme ça qu'on peut se le dire, si tu décides de faire un film sur le Che, il y a toute l'imagerie qui trimballe, tous les films qui ont été faits avant, ça peut être un peu encombrant au casse-gueule, et finalement là, ça te laissait une page blanche.
Exactement, ça me laissait, voilà, j'avais aucun poids sur mes épaules finalement, quoi, si ce n'est le propre poids que je me mettais moi-même, mais disons que j'avais pas la pression d'un autre film qui existait, quoi. C'est-à-dire parce qu'il n'y en avait pas eu, en fait.
Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Tu cohabites pas avec les biopics qui ont déjà été faits.
Ouais, voilà.
D'ailleurs, des biopics sur le Che, il y en a beaucoup qui ont été faits. Il y en a pas beaucoup qui sont bons, à part peut-être le film qui avait été fait sur sa jeunesse.
Le film de Walter Salles, qui est effectivement le plus réussi sur le...
Sinon, c'était pas très bon. Comment s'appelle-t-il ? Soderbergh, qui a fait... Mais c'est assez plat. Et donc tu disais, c'est uniquement des images d'archives, donc tu t'es plongé à corps perdu dans les images d'archives, dans les heures et les heures d'images d'archives qui existent. C'est très intéressant sur la forme parce que tu t'intéresses donc à des protagonistes qui sont morts depuis des décennies. C'est un temps qui révolue, d'autant plus maintenant avec Cuba, à Cuba les changements qui ont eu lieu ces dernières années depuis la mort de Castro. Ça me rappelle un petit peu ce que disait Ken Burns, qui est un très célèbre documentariste américain, qui lui, pareil, à peu de choses près, a fait des documentaires uniquement sur des temps et des gens qui étaient morts, notamment la guerre de sécession américaine ou la Seconde Guerre mondiale. Et il disait, en fait, par les différents moyens de mise en scène qu'il utilise, la façon de mettre en scène les images d'archives, ils essayaient de réveiller les morts. C'est aussi... ce que toi, tu avais essayé de faire avec ce film, de les rendre vivants et près de nous.
Bah c'est la force du cinéma et aussi de la littérature et de l'art en général, c'est d'abolir la mort, en fait. C'est-à-dire en faisant renaître des images, d'un seul coup, de rendre vivants des choses qui étaient... des personnages qui étaient enfoui, quoi. Voilà, donc c'est la force des images mouvantes et même des images fixes, voilà, de renforcer la vie. Et c'est vrai que par le montage, on rend les choses encore plus vivantes. Quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que parfois, la photographie ou même les archives assez courtes sont un peu frustrantes. Et par le montage, en réunissant tout ça, on arrive à créer une espèce de tourbillon. Et c'était l'envie que j'avais avec ce film, c'était de vraiment créer un tourbillon d'images à l'image du personnage qui était assez fantasque, assez
oui,
fou,
plein de qui, vie,
voilà, qui c'est ça qui
son surnom c'était le rigolard, il
c'est
semble.
Ça voilà, donc et je voulais qu'un le film soit l'expression de son attitude, quoi, voilà.
Et c'est ça en fait, par le simple biais de d'images d'archives et de voix off que tu poses par dessus en faisant dialoguer les personnages, comme tu disais, tu abolis la mort en fait.
Ouais.
Et alors je l'ignorais, mais tu m'en parlais avant le début de l'émission. Camilo Cienfuegos, c'est un personnage avec lequel t'as pas tout à fait dit ton dernier mot, si je ne m'abuse, puisque
tout à fait.
On y reviendra de façon plus conséquente après. Mais tu es également auteur et romancier, et tu as signé trois ouvrages pour l'instant, trois romans, et c'est à Cienfuegos que tu consacreras ton prochain.
C'est ça. Le roman que je suis en train d'écrire, c'est un vieux projet que j'ai quasiment depuis la réalisation de ce documentaire sur Camilo. Camilo, en fait, à l'âge de 27 ans, il a disparu. C'est-à-dire qu'il était dans un avion qui a disparu. On n'a jamais retrouvé moindre trace de l'avion. On imagine qu'il est probablement l'avion s'est probablement abîmé en mer,
mais même son corps on n'a jamais retrouvé
ni le corps de ses camarades. Donc officiellement le gouvernement cubain est toujours à sa recherche.
C'est bon à savoir.
Il n'a pas de tombe. Camilo n'a pas de tombe.
C'est ce que tu montres dans le film. Parce que voilà, c'est ça que en hommage à lui, des fleurs sont jetées dans la mer.
Dans la mer, voilà. Voilà. Mais dans la réalité, il est très très probablement mort ou pas. Et c'est pour ça que j'ai inventé une histoire où en fait il a organisé sa propre disparition pour fuir ce régime qui pensait, comme beaucoup de Cubains, il pensait que ça allait devenir une grande nation libre, et en fait ça s'avère que ça devenait peu à peu une dictature. Du coup il a voulu fuir ça comme tant d'autres. Et voilà, donc j'imagine sa vie après octobre 59, après sa disparition.
Oui, comme tu montres à la fin du film, lui, en fait, il était assez clairvoyant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il avait rapidement compris, pour avoir beaucoup fréquenté Castro, la direction que la tournée était en train de prendre.
Ouais. Et en fait, c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup accompagné, parce que même dans mon deuxième roman, Avec le feu, qui raconte l'histoire d'un jeune étudiant italien pendant les années de plomb qui décide de s'engager dans la révolution, mais dans la révolte d'abord la révolte étudiante, puis la lutte armée. Et en fait, je me suis beaucoup inspiré de Camilo pour ce personnage, parce que comme Camilo et comme beaucoup de combattants dont on parle assez peu, il s'est engagé dans la révolution, dans la révolte, plus par romantisme que par conviction politique. Et en fait, face à la violence qu'engendrent ces engagements, il s'est rendu compte que ce n'était pas pour lui, en fait.
Ouais.
Voilà. Et ça m'a toujours beaucoup travaillé.
C'est ce que tu montres aussi dans le film, c'est que lui, contrairement à d'autres, et notamment à Che Guevara, il n'était pas particulièrement habité, ou il n'avait pas particulièrement adopté l'idéal presque romantique du marxisme, quoi.
C'est ça, ouais. Enfin, l'idéal romantique qu'il avait adopté.
Plus romantique que marxiste.
Voilà, c'est ça. Mais disons que la conviction communiste, lui, ça le dépassait complètement, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça qu'une fois qu'il s'est retrouvé au pouvoir, lui, il savait pas trop où se mettre.
Finalement, c'est aussi là qu'il devient. C'est aussi là que le personnage est intéressant. C'est presque une allégorie de ce qu'était cette utopie qui allait finalement, comme à peu près toutes les utopies, connaître les dérives qu'on
c'est
connaît.
Ça, ouais, tout à fait.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
Donc là, ton roman, tu travailles dessus et tu repars de ça presque. Alors, le terme d'uchronie n'est pas tout à fait adapté, mais c'est presque de ça que tu parles.
Si, c'est une sorte d'uchronie. Oui,
juste qu'on ne sait pas, si c'est une histoire narrative, sachant qu'il est peut-être toujours Michael Jackson qui est peut-être encore sur son île déserte. Sur ton travail de monteur, dans un des textes que tu as signé, tu parles de ton expérience auprès de, d'un grand cinéaste avec qui tu as travaillé, Jim Jarmusch, que tu as eu l'occasion de, d'observer au travail. Comment ça s'était fait, cette rencontre et ce processus de travail avec Jarmusch ?
Alors, je n'ai pas travaillé directement avec lui parce que j'ai monté un film qui a été réalisé sur lui. Voilà. Okay. Donc, c'est un documentaire sur Jim Jarmusch réalisé par Léa Rinaldi, qui en avait déjà réalisé un précédent. Voilà, puisque pour deux des films de Jim Jarmusch, elle a été embauchée par Jarmusch et la production pour réaliser ce qu'on appelle les making-of. Mm-hmm.
Les behind-the-scenes.
Et voilà. Ouais. Et elle a un peu détourné la contrainte les deux fois pour réaliser des vrais documentaires, en fait.
D'accord.
Voilà.
Sur ce que c'est un artiste au travail.
Voilà, ou, sur l'artiste au travail. Voilà.
Surtout donc que Jarmusch, comme tu le dis dans un texte qui est lisible sur ton site, il est connu pour être très assez peu tolérant des autres caméras que les siennes sur ses plateaux de tournage.
Oui, c'est ça, exactement.
Comme
ouais.
Cinéaste, de
ouais.
toute façon.
Ouais.
Donc là, c'était un petit peu une exclusivité dont tu as bénéficié et dont elle a tiré parti.
C'est ça, donc, dont elle a tiré parti. Alors, elle a été invitée à chaque fois quelques jours sur le tournage, donc assez peu de temps.
C'était pour quel film ?
C'était pour... Alors, le documentaire que j'ai monté, c'était pour Only Lovers Left Alive.
Ouais, donc ça, c'était en
2013. Le film de vampire,
Tilda
voilà.
Avec Tilda Swinton et Tom Hiddleston.
Exactement, ouais, exactement. Okay. Et donc, Léa Rinaldi, la réalisatrice, avait été invitée par Jarmusch sur le tournage, la partie du film qui est tournée à Tanger.
D'accord.
Voilà, donc... C'était vraiment un travail assez fascinant parce que moi j'ai monté pas mal de films sur des artistes et j'aime beaucoup ça en fait parce que du coup ben on monte un film mais aussi on apprend le travail d'un artiste en fait, on est vraiment au cœur du travail de la création et ça c'est moi ça me fascine quoi de voir les artistes travailler, essayer de comprendre leur travail et puis je trouve ça toujours très stimulant parce que finalement on s'imagine toujours que, enfin souvent que les artistes, ils ont l'inspiration qui tombe du ciel et qu'ils arrivent à créer comme ça.
Créative.
Et dans tous les films que j'ai pu monter sur les artistes, on voit qu'en fait, finalement, c'est du travail en fait. C'est-à-dire que Jarmusch, la phrase qu'il répète le plus souvent sur un plateau, c'est « je ne sais pas ». C'est-à-dire que les acteurs lui posent des questions... La script lui pose des questions et il dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Et finalement,
il observe, il teste,
et puis là, il va saisir un truc. Et là, il dit, ben voilà, à partir de ça, on va construire quelque chose. Voilà. Mm-hmm. Et voilà, c'est.
Et tu parlais des autres artistes sur qui des documentaires ont été réalisés. C'est, mm-hmm. Quels artistes t'ont marqué particulièrement ou tu as eu l'impression justement aussi que par le biais du documentaire et par ricochet du montage, on apprenait beaucoup sur leur. Force créative, pour le dire comme ça.
Voilà, donc, je pense à un autre documentaire qui s'appelle Extra Ball, réalisé par Axel Poisson, qui est un documentaire sur la chorégraphe Mathilde Monnier. Mm-hmm. Et donc, c'est un spectacle créé à Buenos Aires sur un spectacle écrit par le romancier Alan Pauls qui retrace par la danse l'histoire argentine du XXe siècle. Voilà. Et du coup, ce qui est fascinant, c'est de voir comment, en observant les danseurs, elles créent à partir de leur corps, en fait. C'est vraiment... et ça, par le montage, c'était assez, assez fascinant à retranscrire, quoi.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Et voilà.
Alors, on le disait, tu en parlais avant, tu disais que tu planchais actuellement sur ton quatrième livre. Donc, il y a les trois précédents dont on aura l'occasion de parler. Est-ce que... l'écriture, tu y es venu plus tard ou finalement c'est quelque chose que tu faisais toujours, y compris à tes débuts ou comme tu le disais, quand tu faisais du montage, tu écrivais avec des images. Ça a toujours cohabité ou c'est un déclic qui est venu plus tard ?
Non, l'écriture, elle est venue assez tard. Enfin, l'écriture romanesque est venue assez tard. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un roman, quoi. Sauf que j'avais pas. Ni le courage, ni les idées. J'avais des idées comme ça, mais aucune n'était assez prégnante pour que je m'y plonge. Parce que, voilà. Et puis, ce qui m'a un peu décomplexé, c'est que dans la vingtaine, j'ai beaucoup écrit en voyage, en fait. Je fais beaucoup de carnets de voyage.
D'accord. Oui, l'écriture de...
Voilà.
Les écrivains voyageurs, c'est un c'est sous-genre ça, voilà. De la littérature à part entière.
Voilà, ouais.
Hemingway ou Orwell, c'était le cas.
Alors, j'écrivais ce que je faisais dans la journée, hein, ça n'avait absolument aucun intérêt. Mais disons que ça a débloqué un truc par rapport à mes envies d'écrire. Et en fait, en... c'est marrant parce que c'est au moment où je réalisais le film sur Camilo, qui est un film qui m'a pas mal décomplexé par rapport à la création, parce que c'est le premier film que, c'est le premier vrai film que je réalisais. Mmh. Et ça a décomplexé un truc en moi par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que quand j'étais à Cuba en train de chercher les archives sur Camilo... comme souvent à Cuba, on attend parce qu'il y a souvent des blocages.
Inertie administrative.
Et voilà. Et du coup, pendant cette inertie, il faisait très très, très, très chaud. Du coup, on était un peu enfermés à la maison. Et voilà, et j'ai commencé à écrire les premières pages d'un roman dont j'avais comme ça une idée assez peu précise, mais je sentais que ça bouillonnait très fort en fait.
Et c'est ce qui est devenu le roman Le Temps d'arriver.
C'est ça, Le Temps d'arriver, voilà, qui est un peu ma. Ma transition entre le récit de voyage et le roman, parce que ça raconte l'histoire d'un trentenaire qui traverse la France à pied pour aller rejoindre celle qu'il aime. Et du coup, voilà, on est à la fois dans le roman d'amour et dans le récit de voyage. Mmh. Récit de voyage qui m'a amené du coup à la forme romanesque.
Et c'est finalement avec ce roman-là que tu as eu le déclic finalement d'aller jusqu'au bout de cette histoire la première où tu t'es dit qu'elle était... je sais pas, digne d'être poursuivi ou raconté.
Ouais. Alors en fait, quand j'ai écrit, je savais pas tout de suite trop où ça allait mener, en fait. Parce qu'en fait, c'est un roman que j'ai commencé à écrire avec beaucoup d'intensité, mais assez peu de rigueur.
D'accord.
Du coup, j'ai mis à peu près 5 ans à écrire cette histoire qui fait dans les 170 pages, donc qui est plutôt courte. Parce que j'avais pas encore la rigueur d'un romancier. C'est-à-dire que je mettais pas de pression, parfois je laissais passer 6 mois entre deux périodes d'écriture, voilà. Et puis à un moment je me suis dit bon Aurélien, il faut quand même terminer ça quoi. Donc en 2011 je me suis mis un gros coup dans les pattes et j'ai terminé, voilà.
Donc, et c'est un roman qui a été plutôt bien accueilli puisque t'as gagné plusieurs prix à sa sortie.
Oui, c'est la sortie du roman c'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que ça a participé à la confiance que j'ai pu avoir pour me lancer dans le deuxième, même si entre le premier et le deuxième j'ai écrit des nouvelles qui ont pas trouvé finalement la forme idéale pour être publiées en tant que telles. Voilà, mais en tout cas voilà, ça, le bon accueil de ce premier roman m'a permis de prendre confiance.
Ça t'a incité à persister.
Voilà, ouais.
Et tu parlais tout à l'heure de ton deuxième ouvrage, donc qui se passe pendant les années de plomb en Italie, avec le feu. Et ensuite viendra, on en parlera plus tard, ton dernier en date, Trois cœurs battant la nuit. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les thèmes et même les genres dans lesquels s'inscrivent tes romans, finalement, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Est-ce que c'est délibéré de ta part de ne pas t'enfermer dans un genre, d'explorer plein de choses différentes ?
Tout à fait. Moi, en tant que monteur, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque film, je me plonge dans un univers complètement différent, en fait. Et ça, je trouve que c'est très précieux, en fait, dans une vie, d'avoir ce privilège de ne pas connaître la routine. C'est-à-dire que ben voilà, je termine Les Cent Dents, qui est une comédie grinçante, et j'enchaîne sur un documentaire sur un médecin généraliste. Enfin, voilà, je navigue comme ça d'un projet à un autre, et du coup, à chaque fois, ben, c'est des découvertes. Et c'est vrai que je pense que j'ai un peu essayé de retranscrire ça pour le roman, c'est-à-dire que j'aime bien à chaque roman changer complètement d'univers.
Donc là, tu...
Mais par contre, tout en gardant les mêmes obsessions, et tout en continuant à travailler un peu les mêmes thématiques, quoi.
Voilà. C'est ce qu'on appelle le style. Et donc, tu parlais de Avec le feu, donc, qui se passe en Italie, pendant avec la lutte armée dans les années 70. Là, est-ce que c'est un ouvrage pour lequel tu as effectué un travail similaire à ce que tu avais fait pour ton film, c'est-à-dire de te replonger dans les images d'archives, dans les brèves et les journaux, les actualités de l'époque, pour y accorder du...
Carrément, même beaucoup plus que sur Camilo, parce que bon... Camilo, c'était pas les recherches étaient pas énormes, puisqu'en fait il est mort à 27 ans. Il a commencé sa carrière de révolutionnaire à 24 ans, Donc finalement, c'est quelque chose d'assez fulgurant, quoi, sa vie. Mmh. C'est, voilà.
C'était une comète.
Voilà, exactement, c'est une comète, tout à fait. Les Brigades Rouges et l'Italie des années 70, ça, c'était quelque chose de beaucoup plus strong, quoi. C'était beaucoup plus, voilà. Et surtout, voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites et je voulais pas faire un truc un peu, tu vois, qui ressemble à, trop à un autre. Je voulais pas.
Parce que en Italie.
Je voulais pas raconter de conneries aussi. Enfin bon, voilà. C'est du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un an à lire des choses, à voir des choses, à rencontrer des anciens brigadistes, des anciennes compagnes de brigadistes. Pour vraiment m'imprégner un maximum de. Je suis allé. J'ai passé du temps à Gênes aussi pour m'imprégner de la ville, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, comment l'énergie de la ville fonctionnait. Et c'est vraiment au bout d'un an, je me suis beaucoup retenu parce que l'histoire, je l'avais en fait. Mm-hmm. L'histoire, je l'avais, mais je me suis retenu de commencer à écrire la moindre ligne avant de m'être suffisamment imprégné pour pouvoir. Raconter cette histoire avec toute la véracité historique que ça implique. Quoi. Voilà.
Et dans ces cas-là, puisque tu le dis, comme on pouvait parler du sujet du Che avant, quand on s'intéresse à un sujet comme les Brigades Rouges, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites, filmées. Toi, le processus, il s'est fait comment ? C'est-à-dire que tu t'es dit, il y a cette histoire entre les deux personnages dont, comme tu le disais, qui est pas sans rappeler le parcours de Camilo, d'un côté, et puis il y a à côté de ça le contexte plus vaste et plus général qui sert un petit peu de fil rouge et de toile de fond. Qu'est-ce qui est venu en premier ? Qu'est-ce qui a guidé l'autre ?
L'histoire de l'engagement politique à l'épreuve de la violence et de l'amour, parce que ça raconte ça, quoi. C'est un personnage qui est tiraillé entre du coup, son engagement politique et la passion amoureuse. L'histoire est venue dans un premier temps. C'était vraiment avant même le pays, avant même l'Italie, c'était venu. Voilà. Même si, en fait, c'est un film, c'est la vision d'un film qui a provoqué les germes de ce projet. Un film qui s'appelle Nos meilleures années, qui est un film en deux épisodes, qui est un téléfilm italien qui est sorti au cinéma en France.
Ouais. C'est une saga c'est ça, voilà. Qui montre l'histoire d'une famille.
Voilà, un film que j'aime énormément. Mm-hmm. Et voilà, et ce film a une des responsabilités pour lequel le film se passe en Italie et pas en France, parce que mon éditeur, dans un premier temps, quand je lui ai raconté cette histoire, il m'a dit « Mais Aurélien, pourquoi ça se passerait pas en France ? C'est plus proche de toi. Mm-hmm. » tout ce qu'il y a, les groupes comme Action Directe, tout ça, ça a été beaucoup moins raconté que les Brigades Rouges. Mais pour moi, il y avait un romantisme dans les révoltes italiennes qu'il y avait assez peu en France. Quelque chose de plus populaire, de plus lumineux en fait. Mmh. Voilà. Même si ça peut paraître absurde de parler de lumière quand avec tous ces attentats, mais en tout cas voilà, dans les engagements et dans cette envie de changer le monde, ça allait beaucoup plus loin en Italie qu'en France. Voilà, mais du coup quand même ce qui venait en premier, c'était l'histoire d'un jeune étudiant qui se retrouve projeté dans le flux de l'engagement politique et romantique et qui se retrouve confronté à une histoire d'amour qui le dépasse, quoi. Et il y a une autre histoire qui m'a beaucoup inspiré, c'est celle de Martin Eden, Jack London, le roman de voilà, qui raconte aussi ça, qui raconte en fait le un jeune mec qui finit à une vie populaire qui va tomber amoureux d'une femme d'un autre milieu que lui et du coup qui va vouloir vivre cette histoire d'amour envers et contre tout, quoi. Voilà. Donc Martin Eden m'avait beaucoup marqué. Donc c'est pas seulement une histoire italienne, quoi.
C'est divers.
Mais finalement, ça se passe à Gênes parce que je voulais une ville italienne qui ressemble à Marseille et du coup, je savais que Gênes était très proche de Marseille d'un point de vue de physionomie. Du coup,
D'accord.
Voilà.
passionnant. Et oui, d'ailleurs, tu parlais du film Nos meilleures années. Moi, je l'avais vu. J'adore également. C'est un très bon film. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, ça dure longtemps. C'est en 6 heures. C'est pour ça qu'il avait été diffusé en
2 fois 3 heures en France.
Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Il était sorti en 2 parties au cinéma. Ouais. Et en Italie, comme tu disais, il avait dû être diffusé sur la RAI.
C'est ça, en 3-4 fois. En 4 fois.
Ouais. En DVD, il est trouvable.
Tout à fait.
J'imagine sur d'autres supports. C'est passionnant et c'est très intéressant. C'est une saga en fait qui, de mémoire, commence au début des années 60 pour sur 40 ans en fait. Ça s'arrête là au moment où le film a été tourné et on voit tout en fait à la fois effectivement les Brigades Rouges et puis après les années Berlusconi.
C'est ça, tout à fait. Ouais,
les années Ponce,
ouais.
Donc c'est à voir et pour ça explique très bien le chemin parcouru par l'Italie en plusieurs décennies.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle. Loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
Ton troisième et pour l'instant et dernier roman en date, 3 cœurs battant la nuit, c'est, comme tu disais, quelque chose qui n'a encore rien à voir, puisque là, tu te places, même si tu n'oublies pas totalement l'aspect humain et peut-être même sociétal, mais tu te places dans un registre qui est délibérément science-fictionnel.
Tout à fait. Le projet 3 cœurs battant la nuit, c'est vraiment la rencontre entre plusieurs projets différents. En fait, c'est vraiment un livre qui réunit des projets très différents et qui, au final, finalement, raconte une histoire plutôt assez pure, plutôt simple, plutôt très courte. Le livre se passe sur 2 nuits, mais voilà, c'était vraiment un livre en tonneau noir, quoi. C'est-à-dire que c'est un livre qui vient ramasser plusieurs univers et idées très différentes pour finalement se retrouver dans un seul roman, quoi. Donc c'était assez...
Et les différentes idées dont tu parles,
Les différentes idées, c'est que j'avais un projet de roman qui se passait pendant la nuit du 13 novembre 2015 à Paris et qui raconterait l'histoire de deux personnages qui apprennent à la radio qu'il y a eu ces attentats. Et ces deux personnages ont un lien avec une des personnes qui travaille dans un des cafés qui a été attaqué. Et du coup, le roman suit leur déambulation, leur convergence. Ils habitent chacun, l'un au nord, l'un au sud de Paris. Et c'est raconter leur convergence vers ce café pour aller voir ce qui est arrivé à leur ami, quoi. Voilà. Et
c'est intéressant parce que finalement, même si les motifs et les méthodes sont différentes, finalement, on est sur là, quand on parle du terrorisme islamiste, on est sur l'autre face de la pièce, de la lutte armée dont on parlait avant.
C'est ça, voilà. Donc il y avait quelque chose de... voilà, en fait, l'idée de chacun de mes romans, c'est de raconter l'amour à l'épreuve de quelque chose, en fait. Voilà. Mon premier roman, c'était l'amour à l'épreuve de la route, de
la distance,
du roman initiatique, du voyage initiatique. Mon deuxième roman, c'est l'amour à l'épreuve de l'engagement politique et l'amour à l'épreuve du chaos social, voilà. Et mon troisième roman, c'était vraiment l'idée de l'amour face à la guerre, en fait. Comment un amour survit pendant la guerre.
Et
voilà.
Et finalement, l'idée initiale et le roman a évolué pour devenir quelque chose de plus... un récit d'anticipation qui se passe à Marseille en 2054.
C'est ça. Donc finalement, on est assez loin du 13 novembre 2015, même si dans le livre, il y a encore cette idée d'un personnage qui travaille dans un café. Le café est pris en otage. Et les deux autres personnages qui ne se connaissent pas mais qui sont tous les deux amoureux d'elle vont converger vers elle. Voilà, donc j'ai gardé cette idée de la convergence nocturne.
Tu gardes le récit et le périple finalement qui n'est jamais très loin.
C'est ça, voilà. Donc j'ai gardé ça, mais disons que le projet a évolué et a fusionné avec une autre envie. C'était celle de me confronter au roman d'anticipation, parce que c'est un genre qui m'a toujours pas mal intéressé, même si j'en lis assez peu, ça m'a toujours intéressé. Et dans l'idée de l'anticipation, je voulais raconter l'histoire de l'inversement des flux migratoires, en fait.
D'accord, oui, puisque c'est aussi en toile de fond.
C'est
du
ça,
roman,
voilà, exactement.
Puisque Marseille est en plus.
Exactement. Donc je voulais. je voulais raconter les une Europe qui s'est effondrée et c'est les migrants européens qui affluent en masse vers le Maghreb en fait. Donc c'était cette idée d'inverser les pôles migratoires dans l'idée de bousculer un peu le lecteur et de le mettre face aux contradictions de notre époque, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si c'était nous qui devions quitter nos maisons,
de l'autre côté du mur.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ces deux projets qui apparemment étaient assez éloignés ont fini par se rencontrer, se raccorder, et ça aboutit à trois quarts battant la nuit. Ouais.
Et même si, comme on le disait avant, même si à chaque roman, tu as ton style et tes obsessions et des idées qui reviennent en toile de fond, pour autant, c'est des vues sur le fond comme sur la forme, c'est des romans qui sont très différents. Toi, ça te permet aussi de, je dirais pas revisiter, puisque c'est jamais aussi simple que ça, mais de faire appel à des influences qui sont aussi diverses à chaque fois. Tu parlais du roman d'anticipation, c'est sûr que dans la science-fiction ou la fantasy, c'est un sous-genre et même éminemment social et sociétal, comme tu le disais avant, qui a été énormément exploré. Je pense à des gens comme Philippe K. Dick, des noms comme ça.
Ouais. En fait, pas trop. C'est un roman sur lequel j'ai pas vraiment été influencé par d'autres auteurs de science-fiction. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment voulu raconter un monde qui est pas très éloigné du nôtre et finalement qui rappelle plus le Marseille du début des années 40. Parce qu'au début des années 1940, à Marseille, on avait énormément d'Allemands, de Français qui affluaient vers Marseille pour trouver une place dans un cargo pour partir, pour fuir le nazisme, en fait. Donc, je me suis plus inspiré de ça que d'autres romans d'anticipation, en fait. Voilà. Après, forcément, le fait de mettre des drones, des combinaisons qui rendent invisibles, ça renvoie forcément à des choses qu'on connaît. J'avais été marqué dans Minority Report de ce personnage en fait qui a peur qu'on lui scanne sa pupille et ça m'avait pas mal marqué ça. Donc, il y a des petites idées que j'ai piquées à droite à gauche, mais j'ai quand même essayé de pas penser à la science-fiction en fait.
C'est vrai que ça peut
être de penser au récit, à la course des personnages.
Mais c'est vrai qu'en plus, tu prends l'exemple de Minority Report, que ce soit dans le bouquin de Philip K. Dick ou dans le film de Spielberg. C'est vrai que tu as l'aspect science-fiction, puisque ça se passe dans le futur. Il y a la technologie qui est très avancée. Ça paraissait futuriste à l'époque. Ça l'est un peu moins maintenant, ce qui concerne le scan rétinien. Mais finalement, tu as des thèmes qui sont, je serais tenté de dire, vieux comme le monde. Le place de l'homme dans la société, l'homme contre la loi. En plus, c'est des thèmes qui étaient très chers à K. Dick. Il a cessé d'explorer et de labourer. Donc finalement, parfois... la science-fiction, c'est juste pas forcément un prétexte, mais c'est aussi le moyen d'aborder ça, d'aborder ces thèmes-là en sous-main. C'est aussi pour ça que ça a été longtemps considéré comme une sous-littérature. Alors
tout à fait.
Elle a toujours eu beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Et tu parlais de Marseille, donc comme tu me le disais avant l'émission, toi, c'est une ville dont tu es natif, même si tu vis depuis... moult années à Paris. C'est une ville, tu le disais pour Gênes avant, et en fait, c'est qu'il y a une géographie, une construction, et même donc par ricochet, une atmosphère qui est incroyable, notamment ce qui m'a toujours frappé à Marseille, et notamment par rapport à Paris, c'est la lumière, c'est-à-dire que c'est une ville où tu as l'impression qui baigne toujours dans une lumière diaphane, même la nuit, tu as l'impression de tout voir. Et c'est vrai que finalement, c'est un aspect, j'ai l'impression, qui a été assez peu exploité, exploré en littérature, y compris et surtout dans la science-fiction.
Oui, c'était ça aussi qui était... qui était tentant aussi, c'est qu'il y avait assez peu de romans de science-fiction qui se passaient à Marseille. Du coup, c'était aussi un peu une envie de me plonger là-dedans. Puis j'avais envie de détruire Marseille, en fait. Un truc comme ça, un peu...
c'était cathartique.
Un peu maso. Je me suis dit, tiens, un Marseille en ruine, ça serait...
Quand tu vois les blockbusters américains, c'est toujours le pont de San Francisco.
C'est donc ça,
là,
voilà.
Tu t'es dit, on va varier un peu.
Voilà.
Ça va être...
D'ailleurs, pour la couverture de la version poche du livre qui sort en mars... j'avais un désir, c'était qu'on voit Notre-Dame de la Garde à moitié détruite, en fait. C'était un peu mon fantasme qui s'est réalisé du coup.
Donc ce sera la couverture.
Voilà, ça sera la couverture, un tram de la garde avec une explosion derrière. Et, voilà.
Et c'est vrai que c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que tu pars justement, comme on disait, c'est une ville qui a une histoire, y compris depuis surtout le XXe siècle, et une géographie incroyable, et qui finalement, paradoxalement, peut-être n'a pas été si explorée que ça. Quoi.
Puis moi, c'est une ville qui m'inspire énormément, c'est à ce point qu'elle est présente dans tous mes romans. C'est une ville qui m'inspire énormément parce que j'ai un vrai rapport d'amour-haine à cette ville, et ça, ce genre de rapport, c'est très inspirant en fait.
Oui. Artistiquement, c'est.
Parce que Marseille, c'est une ville qui est pleine de contradictions. Pour prendre un exemple sur ce qui se passe en soi à Marseille, mais pensons à Marseille, voilà, c'est une ville qui culturellement explose, donc on a de plus en plus de lieux culturels, de bars branchés. En même temps, comme très souvent, il y a une espèce d'énorme grève des éboueurs. Du coup, on a des espèces de tas d'ordures, des images qu'on ne voit plus en Europe, en fait. Quoi. Et du coup, c'est ça, c'est cette ville qui est vraiment... Il y a comme ça des choses qui se confrontent, et des choses très électriques, en fait. Il y a beaucoup de tensions à Marseille, beaucoup de tensions entre les communautés, entre les gens dans la rue. Il y a un truc très sang chaud, en fait, très italien.
Exactement, en plus, ouais.
Ouais, et en même temps,
latin, ouais.
Voilà, et en même temps, un côté très bourgeois à Marseille. Voilà, et ça, et tout ça s'embranche assez mal, et du coup, ça crée l'électricité, et l'électricité, c'est bon pour
pour
le roman, pour le cinéma, pour...
Et c'est vrai que y a beaucoup d'endroits qui étaient des friches, donc industrielles ou post-industrielles, dans lesquelles des initiatives ont été faites. Et donc, il y a des choses qui sont faites, il y a des gens qui viennent s'installer. Et pour autant, à côté de ça, l'arrondissement le plus pauvre de France et même d'Europe, si je ne dis pas de bêtises, il est à Marseille. Donc,
le quartier le plus pauvre d'Europe. Ouais,
voilà, c'est ça. Tu passes deux rues et tu te dis, ah oui, d'accord, on est. Et c'est vrai que, et à côté de ça, tu as des quartiers où, comme tu disais, ça s'est énormément gentrifié. Ça fait venir, par les confinements successifs, beaucoup de Parisiens sont allés à Paris pour y ouvrir des boutiques de créateurs ou des épiceries véganes.
Ouais.
Je caricature volontairement. Et c'est vrai que tu as cette vraie tension-là. On va terminer avec la question que je pose à chaque fois à mes invités. Est-ce que tu peux partager avec nous, avec tes auditeurs, une œuvre artistique qui te tient particulièrement à cœur ? Donc, que ce soit un livre, un film, une chanson, un album. Qu'est-ce qui te fait plaisir ?
Alors, c'est pas une question évidente parce que...
Le plus dur, c'est d'en garder qu'un.
C'est ça, parce que moi,
je un seul.
Parce que je comme tout... artiste.
T'as déjà eu nos meilleures années, mais ça compte pas. Donc
ça compte pas. Non.
Conseil aux gens de le
voir. En y réfléchissant, il y a. Alors, j'ai pas d'œuvre totem comme ça qui me. Je suis pas comme Paul Thomas Anderson qui dit qu'il relit Moby Dick avant chaque tournage. J'ai pas comme ça de.
Tu relis pas Moby Dick avant chaque montage.
Je pense que c'est pas forcément vrai, mais bon, bref, j'ai pas d'œuvre totem comme ça.
L'entretien sa propre légende, à mon avis.
J'ai pas d'œuvre totem comme ça qui me. J'en ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup d'œuvres, voilà, qui m'accompagnent et qui me soutiennent. Mais si je devais en choisir qu'une, choisirais un court roman de Dostoïevski qui s'appelle Les Nuits Blanches. Voilà, une histoire d'un jeune homme solitaire qui va croiser comme ça en pleine nuit une jeune femme paumée, et ils vont se retrouver de nuit en nuit. Elle attend un homme qui ne vient pas, et lui espère qu'il va conquérir son cœur. Il y a quelque chose de très fou, comme dans tous les bouquins de Dostoïevski, mais appliqué à l'amour. Et ça c'est très très beau. C'est un livre vraiment que je conseille à tout le monde. C'est un très court roman ou une longue nouvelle, on ne sait pas trop. En tout cas,
il a souvent joué sur.
Voilà,
c'est
un livre qui a été énormément adapté au cinéma, qui reste pour moi une œuvre vraiment très très belle et très évocatrice et très inspirante.
Et quand on t'entend en parler, ça rappelle ce que tu disais de tes propres romans, l'amour. À l'épreuve de beaucoup de choses.
Voilà.
De tout le reste. Aurélien Magna, merci beaucoup. Merci d'avoir d'être venu passer cette heure avec nous et de nous avoir conseillé plein de choses à lire et à regarder. Pour Donc on parlait les différents projets dont on parlait, donc ton site personnel est très complet, c'est aurelienmania.com de mémoire, tout simplement, M-A-N-Y-K. Le lien est disponible sur la page du podcast. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le film, ton film sur Camilo Cienfuegos dont on parlait, La route de Camilo, pour ceux qui souhaitent le voir, il est visible intégralement. Tu as mis le lien Vimeo sur ton site internet. Et une bande démo de ton travail, des différents montages que tu as effectués.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci Robin.
Bonne soirée à tous. À bientôt.